Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Gilles Fagnin. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour à tous et à toutes.
On va parler Superbike.
Oui,
mondial, alors, et puis aussi endurance.
Oui, comme à l'habitude, ça fait assez longtemps qu'avec le Grand Prix de France, on n'a pas fait de rubrique et il y a pas mal d'infos et de news par rapport à ces deux disciplines.
Chez nous, sommes en compagnie de deux invités que tu connais très bien parce que tu as partagé leur impression sur un rallye le tunisien de Moto Tour hein, qui s'est déroulé du 1er au 6 mai. Hein, c'est Eric et Joanne Roger. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Je leur dis bonjour hein, Gilles parce que voilà, donc c'était pour votre premier rallye en Afrique du Nord. Vos impressions déjà pour commencer cette émission pour un premier rallye.
Ah ben, Johan. Moi, mon père m'a mis sur une moto quand j'avais 5-6 ans. Donc, on a fait pas mal de disciplines ensemble. On a fait du motocross, de l'enduro. Enfin, on a goûté un petit peu à tout. Et c'était effectivement notre tout premier rallye routier. Et pour être honnête, au terme de la première journée, quand on est rentré de la première étape, on s'est dit
je rentre.
On rentre. Quand on sera rentré, on range les motos et on parle plus jamais de rallye routier. Et puis au final, quand on est rentré, on a dit qu'est-ce qu'on prend comme moto pour l'année prochaine.
Bon, pourtant, toi, c'était pas une grosse moto, c'était une 125.
C'était un 125 DTR.
Ouais, DTR, et puis papa, Eric,
660
Ténéré. Ouais. Un petit peu mieux quand même au niveau puissance, gabarit pour ce genre d'événement.
Je pense que c'était pas question de faire un temps scratch avec une moto comme ça, mais par contre c'était l'idéal compte tenu des parcours que nous avons eu là-bas.
Donc le principe c'était quoi? C'était de participer, pas de gagner quoi.
Hein, gagner ça, non, quoi. Mais non, participer correctement.
Et je ne sais même pas si dans ce rallye il y a un classement.
Ah, si, il y a un classement. Bien sûr, effectivement, qui est calculé d'abord sur les liaisons sur lesquelles on a des pénalités et ensuite sur les chronos qui établissent
un vrai rallye quoi.
Ouais, on va apporter une petite précision, oui. C'est qui dit moto tour dit rallye routier avec voilà. Classement etc. Et donc il y a un gagnant, il y a des catégories, donc il y a une catégorie sport, une catégorie multicylindre, une catégorie, enfin voilà, il y a plusieurs catégories, on reviendra tout à l'heure dessus. Et donc il y a plusieurs gagnants par définition, donc on a un classement. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui la Tunisie c'est qu'une étape puisqu'il va y avoir l'année prochaine un Jordanian et qu'on s'achemine tout doucement vers l'organisation d'un championnat du monde. Donc c'est quand même pas rien.
Donc le Moto Tour en France, ça va terminer ça
Alors le Moto Tour tel qu'il existe, en tout cas, c'est la dernière édition cette année. C'est pour ça que nous tous, on veut tous le faire. Parce que c'est une épreuve exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose dans la vie d'un motard qu'il faut vraiment vivre. Parce que le Tunisien, il faut dire, c'est sur 5 jours, c'est très petit. C'était une première édition, peut-être une bêta version d'ailleurs. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais le Moto Tour, c'est plus de 10 jours. C'est vraiment beaucoup plus de kilomètres et des difficultés encore plus importantes. Peu de sommeil. Ça, c'est ce qui revient toujours dans le label, je dirais, Moto Tour. Très peu de sommeil, beaucoup de kilomètres et des difficultés de terrain assez importantes, peu d'adhérence. Là, voilà ce qui résume un peu le label Moto Tour en gros.
Très bien, pour terminer ce sommaire de l'émission, eh bien, les infos au club avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour.
Beaucoup de choses encore à faire ce week-end et le week-end prochain, bien sûr. Et puis la programmation musicale est signée Laurent Rodier.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. We'll
bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Un peu de vacances aujourd'hui, un peu de soleil surtout avec les deux pilotes qui ont participé à ce Tunisien Rallye là, qui s'est déroulé du 1er au 6 mai je crois, hein.
C'est ça tout à fait, oui.
Donc vous êtes apparemment passionné de, d'abord Eric, le papa, hein, 55 ans quand même, hein, bon,
ans.
Ça prouve qu'on peut ce rallye éventuellement, on peut le faire même quand on a entre 50 et 60 ans, voire même plus, si on est en forme.
Le plus vieux avait 72 ans quand même.
Quand même,
oui.
Voyons. Donc passionné de Yamaha.
Oui.
Et pourquoi pas une Yamaha?
Parce que à 14 ans, j'ai eu l'opportunité.
T'as mis une Yamaha?
À 14 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir une Yamaha et puis je suis resté fidèle à la marque jusqu'à maintenant.
Alors comment on s'embarque dans un rallye comme ça? Parce que sans expérience, parce que c'était le premier. Et comment on fait pour partir? Il faut penser à prendre le matériel. Comment on fait, Yoann?
Moi, j'ai un secret. Mon père pense tout pour moi.
Il pense pas. Ouais. Alors Eric, comment on fait?
Ah ben j'ai un copain qui nous a embarqué dans l'aventure.
Alors on commence comme ça. C'est sur un coup de.
Un copain.
Un jour, une petite fête, et puis on dit tiens, on ferait pas ça.
Oui, hein, tout à
et
fait.
Et puis on tape dans la main.
Et lui il a déjà fait deux fois le Dark Dog Motor.
Ah, en plus,
tour,
ah bah voilà,
vous avez
donc,
dit
en fait,
c'est formidable.
Effectivement,
alors,
donc là,
on
y a,
peut dire
y,
son
y,
nom
y a,
quand même.
On sait pas si on veut dire, parce qu'il vous a lâché entre deux.
Voilà. Monsieur Jean-Yves Pégard, si tu nous écoutes.
Mais alors là, c'est le lâcheur.
Voilà. Enfin, bon,
quand on donne sa parole, on la tient. Hein.
Bah, peu importe, vous pouvez quand même le remercier, je pense.
Vous êtes comment embarqué dans le truc.
Tout à fait.
Mais effectivement, il vaut mieux partir avec quelqu'un et un peu d'expérience des rallyes, parce qu'il y a tout un tas de choses à apprendre, quand même. La navigation, le matériel à prendre, pas comment ça marche. J'ai jamais fait de rallye.
La première chose à faire, c'est d'abord d'apprendre à fabriquer son roadbook. Parce qu'il faut savoir que sur les mototours, on n'a pas le droit au tripi, on n'a pas le droit au GPS. Donc on doit partir avec un roadbook papier qu'il faut enrouler, il faut le découper, il faut le scotcher. Et ça nous prend une heure tous les
mais
jours.
Mais le roadbook, c'est pas vous qui allez le faire.
Le roadbook,
on nous fournit
les fichiers. Et ensuite, la première des choses à savoir, c'est comment construire son roadbook. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Et si le roadbook est mal fait, il se déroule pas correctement.
Alors le construire, c'est-à-dire, comme tu dis, découper,
il y a une façon de faire pour le coller correctement, pour pas qu'il se déchire. Voilà. Donc ça, c'est un truc à apprendre aussi.
Il faut pas qu'il bloque, parce qu'effectivement, quand on est en pleine spéciale,
particulièrement en Tunisie, parce qu'on est parfois en pleine nature, en pleine montagne, dans des routes où il y a presque plus de route d'ailleurs.
Ah, tout à fait, oui.
Alors c'est pas le tout de bien fabriquer ce roadbook, de bien le mettre dans le système. Là, après, il faut savoir le lire aussi.
Oui. On a vite appris, puisqu'on s'est pris 3 minutes de pénalité dès le premier jour.
Est-ce que le copain vous avait donné un peu d'informations avant?
Il nous a donné
comment on lit un roadbook, comment ça, c'est des grosses flèches, il y a des,
c'est des boules flèches,
ça montre
franchement c'est pas très compliqué, il suffit de l'assimiler, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça va.
Parce que là-bas en Tunisie, c'était la première fois que vous alliez en Tunisie, vous êtes arrivé non?
On avait déjà été en vacances.
Ah, vous aviez déjà été en vacances. Oh, bah alors donc
dans des clubs vacances avec piscine 5 étoiles.
Ah bah non, vous n'aviez jamais été en vacances en Tunisie. Alors d'accord, donc on arrive comme ça là-bas, et puis après il faut prendre la direction de la première parcours de liaison, après spécial.
Oui. D'abord il faut aller à Marseille.
Alors après il faut commencer, oui.
Alors ça c'est déjà une aventure, parce qu'il faut passer la douane, il faut prendre le bateau, il faut arrimer les motos.
Ouais.
c'est vrai.
Ça, c'est déjà une première aventure. Et puis après, bah, on attend que la traversée se passe dans un bateau confortable. Ah,
ouais. On a le temps. Sympa, hein. Oui. C'est bien sympa, bateau. des cabines agréables.
Et ce parcours Lille-Marseille est un petit peu...
Ça commence par de la
ennuyant à faire. Donc, je suppose
un peu long, 27 heures.
On part pas en moto. On part en voiture. Et puis, on essaye de laisser la voiture là-bas...
L'organisation avait bien fait
dans
ça.
Un endroit.
Mais bon, ce qu'il y a, c'est que en fait, dans le bateau, ça commence déjà la course puisque on a eu le briefing.
C'est vrai.
Il y a eu un briefing pilote, et c'est là qu'on nous a dit, faudra faire attention à ci, à ça, etc. Le change, parce qu'il faut changer l'argent. Hein, on n'est pas en euros là-bas en Tunisie. J'ai eu dinars. Enfin, des petites choses comme ça.
Donc c'est les pilotes qui font tout ça.
Il y a un briefing par l'organisation. Il y a un briefing qui est fait dans le bateau déjà. Donc on est déjà dans l'ambiance de la course.
Vous expliquer un petit peu si on doit respecter le code de la route en Tunisie ou non. C'est un peu.
Dans la théorie, les Tunisiens eux-mêmes respectent pas vraiment le code de la route.
Donc, dire un petit peu comment on fait pour rouler là-bas et comment ça roule. Le magazine de la moto aujourd'hui avec Eric et Johan Roger, voilà. Bon, avant de parler de navigation, on a vu des photos là, votre arrivée donc à Tunis.
C'est ça.
Avenue hein. Bourguiba. Donc l'avenue. Alors,
après, c'est comme avec la fanfare. Vous avez été accueilli par la fanfare, par le.
Bon, on a été accueilli comme des rois.
Parce qu'on voit, on voit quelques photos là, et, comme des rois.
Ouais, c'est ça.
Comme des héros.
Comme des héros. Ouais. Voilà. C'est incroyable ça.
Bah, c'était la première manifestation sportive en Tunisie depuis la révolution. Donc ils attendaient ça comme un.
Un événement,
voilà. Donc un peu surpris quand même, le fait de voir tout ça.
Les Tunisiens, tous super contents, super contents de voir autant de motos, passionnés par les motos. On était vraiment étonnés. Ouais.
Non, parce qu'on dit toujours que ça n'a pas bonne presse, finalement, la moto.
En France, non.
C'est-à-dire qu'en France, le Tunisian Moto Tour, on n'en a quasiment pas entendu parler, que là-bas, ils faisaient une petite page dans le journal de 20h tous les jours. Quoi.
Ah, quand même.
Donc, et ils étaient très contents de pouvoir par notre intermédiaire, montrer au monde que, on pouvait venir en Tunisie, qu'il n'y avait pas de soucis, quoi, que ça ne craignait pas.
Voilà, quelque part, ça leur fait un petit peu de promo aussi.
Oui, tout à fait.
Très bien. Donc voilà, on arrive donc en Tunisie, donc on parle un petit peu de navigation. Maintenant, parce qu'il faut savoir lire ce fameux roadbook, et puis donc comment ça marche, parce qu'on découvre aussi les routes, hein, c'est pas, à mon avis, c'est pas comme ici en Europe.
Bah, en fait, quand on regarde le roadbook, quand on l'a entre les mains la première fois, on se dit que ça a pas l'air si compliqué, mais d'abord il faut lire le roadbook, faut aussi tourner les pages en même temps, faut faire attention à la circulation, il faut faire attention.
Alors, toutes ces choses, c'est pas que c'est compliqué.
Ah, oui, ouais.
Non. Ah oui, il a fallu une journée et demie pour assimiler, mais après ça.
Après les ravitaillements, comment ça se fait? Ça se passe comment?
Sur le roadbook sont indiquées les stations-service. Donc c'est à nous après de calculer en fonction de l'autonomie à quelle station on doit s'arrêter, tout simplement. Et puis moi avec le 125, forcément, comme j'avais une grosse conso, il a fallu s'arrêter.
Il faut préciser quand même une chose, c'est que d'abord le théâtre de la course ne se déroule pas dans Tunisie touristique. C'est dans la Tunisie du Nord, donc une Tunisie en partie montagneuse, avec des habitants disséminés dans une montagne verdoyante quand même. Hein. C'est pas la Tunisie aride. Et donc, on a eu aussi même un peu de pluie là-bas. Donc,
un tout petit peu.
Voilà. On n'est pas dans la Tunisie du tout touristique. Voilà. On va dans des routes, effectivement, qui sont parfois laissées à l'abandon, on a l'impression, parfois en construction. Qu'on roule dans les liaisons, on roule assez bien, on n'a pas trop de problèmes, d'autant que les Tunisiens ont pensé que c'était une course de vitesse sur roue, donc ils nous ont encouragé, la police nous ouvrait la route.
Donc la police était avec vous.
Il faut savoir qu'on a fait un bond en arrière, puisqu'on n'était pas du tout limité à 100 chevaux, puisque la Tunisie n'a pas la législation à 100 chevaux, donc certains concurrents avaient des machines totalement débridées, et donc du coup, ça permettait d'envoyer un petit peu de couple à la roue arrière, ce qui n'est pas désagréable.
Donc alors, il faut faire attention. Donc, j'ai des routes qui ne sont pas très en état et qui sont piégeuses. Donc, méfiance. Oui. Donc, lire le roadbook.
Et surtout, les animaux.
Alors, après, il y a les animaux aussi. Ouais. J'ai vu votre petit...
Ah ouais, moi, j'ai une anecdote. Parce que le matin, on ne pouvait pas partir ensemble puisqu'on est lancé minute par minute. Donc, la première liaison du matin, en général, je la faisais tout seul. Et sur la toute première liaison de la troisième étape, je me suis retrouvé nez à nez avec une grosse vache en plein milieu de la route. Et je pense que mon guidon a dû passer à peu près à 2 cm de la vache. Donc j'ai eu une grosse sueur froide.
Spin down that lonesome road. Don't worry about love, babe, I know. the code. No speed limit on my desire. You can't outrun this prairie fire. Can't outrun. I got a full load to give you all I can. Don't mess with me. I'm the Dharma.
Allez, une info motoclub par
Alors,
Christine.
Voilà, donc le week-end prochain, je vous propose d'aller à Lesquénois pour donc, la 6e Back and Blues, donc organisée par l'association Back and Blues. Donc là, vous pourrez aller au café au Loubar. Et le samedi et le dimanche, vous aurez des expos, concerts, des stands.
Et une bénédiction.
Et une bénédiction le dimanche à 19h.
Oh, dis donc, on n'arrête pas de se faire baigner en ce moment. Hein.
Ah, c'est clair.
Dans la région ici, c'est les curés qui ont du boulot.
Et alors, la semaine prochaine aussi, puisqu'on est dans les calendriers, il y aura, pour ceux qui veulent aller voir une grande course de mondiale, une épreuve du Superbike à Assen. Donc c'est pas si loin d'ici, hein, puisqu'il y a quoi, il y a 450 km là, Mich, je crois.
À peu près. 500 km. Attention, c'est le
voilà.
Samedi.
Voilà, c'est la course, et donc ce sera.
Parce que
je suis pas sûr, parce que pour le Superbike,
t'es pas sûr.
Il faudra vérifier.
Je vais vérifier.
Voilà. Donc on revient avec Eric et Johan Roger, donc le père et le fils, hein, qui ont participé à ce fameux rallye tunisienne Moto Tour. Première édition, enfin première rallye de votre vie, hein. toute première. Hein.
Tout à fait.
On revient donc sur le parcours. Quand vous êtes arrivé à Tunis, vous avez il y avait deux tours de circuit. Enfin, on dit un circuit.
Oui.
C'est pas tout à fait un circuit, c'est
circuit
une route.
Du Belvédère.
Circuit du Belvédère.
Qu'il n'a de nom que.
Ça, c'est pour vous mettre en jambe un petit peu, alors, pour vous faire voir un peu ce que c'est.
Alors, on nous avait briefé, hein, Marc Fontan, nous avait bien briefé que ouais. C'était un circuit extrêmement glissant et tout. C'était pas trompé.
Alors, ça s'est bien passé, pas de chute.
Ah si, il y a eu quelques chutes.
Il y a eu des chutes.
Pour vous,
nous,
non. C'était
des belles glissades, mais pas de chutes.
Comment ça, on part chacun son tour ou ouais. Ensemble
toutes les minutes.
Voilà.
Toutes les minutes.
Et à partir de là, toutes les minutes, et à partir de là, on prend son temps.
Ah non, pas dans une spéciale. Dans une spéciale, c'est
non, là. Non, mais là, sur le circuit.
Ah ben, c'était une spéciale, le spécial. Ah. Donc il fallait faire le meilleur temps.
Le meilleur temps.
Dans la spéciale, c'est chronométré. Donc voilà, c'est là où on envoie du lourd.
On envoie du lourd. On essaie.
Voilà. Et puis nous, on a l'habitude, les circuits qu'on a chez nous, on a des beaux dégagements, on a des bacs à sable, on a des vibreurs, des choses comme ça. Là-bas, quand on sort de la route, bon déjà, il y a une marche, de trottoir.
C'est direct la barrière.
Et une barrière. Donc, faut
donc
pas
on a vu des photos, effectivement, on a un effondrement de piste, de la route qui s'est littéralement effondré sur le, dans le précipice à côté. Là, c'était pas de barrière de sécurité.
C'était pas le circuit du Belvédère.
Non, non, mais sur
l'étape de liaison.
Sur la semaine, sur l'étape de liaison. Quoi. Il faut faire attention quand même, c'est dangereux quand même.
C'est extrêmement dangereux.
Voilà, deuxième jour, alors 475 km, expliquez-nous un peu comment ça se passe. On part de Tunis et vous partez où là?
Alors, on revenait à Tunis le soir même, mais on avait donc 475 km de
liaison. Ah oui, à chaque fois c'est un retour, c'est une boucle en fait.
Les deux premiers jours. Troisième jour, on allait jusque Tabarka.
Donc, comme deuxième jour, 475 km. Oui. Ça fait combien? Ça fait 8 heures de moto, ça?
Bien tassé.
8-9 heures de moto, de sel.
Surtout qu'on a merdé un petit peu.
Parce que, alors voilà, après là, on commence à apprendre le roadbook, tout ça.
Tout
et puis
fait.
Un peu apprendre les routes aussi, un peu comment.
Apprendre les routes, les petites routes, pas à pas rater les petites routes sur la droite ou sur la gauche.
475 km en liaison plus spécial, deux spéciales.
Deux spéciales le matin, deux spéciales l'après-midi. Voilà.
C'était là, la même. Il y avait deux passages dans chaque spécial.
D'accord.
Et ça a été deux spéciales assez compliquées.
Là, c'est pareil, on part chacun.
Toutes les minutes.
Ouais, non, parce que je me suis dit, tiens, peut-être que vous suiviez, ou toi, Eric, tu suivais le fiston.
Ah, alors oui, ça, c'était la crainte que j'avais. C'est comme il démarrait systématiquement les spéciales une minute avant moi, j'avais toujours un peu l'inquiétude de le retrouver.
Alors, je suis tombé dans la quatrième spéciale.
Alors, une chute.
Voilà, une belle petite chute. Mais comme je savais justement qu'il arrivait juste derrière, je me suis dit, vite. Je repars et j'ai réussi.
Alors, est-ce que vous aviez pris l'outillage ou des leviers d'embrayage ou de frein? C'est toujours ça qui casse en premier. Vous aviez pris des choses comme ça?
Une sacoche de réservoir pleine, c'est tout.
Une sacoche de réservoir pleine.
Ouais.
Et comment ça se passe au niveau du couchage? On se balade avec la tente et le duvet le bagage
L'organisation avait fait ça très bien puisqu'on avait des hôtels,
deux hôtels de
haut de gamme.
Ça fait partie de l'engagement.
Ça fait partie de l'engagement, tout à fait.
C'est le rallye de luxe alors.
Non, parce qu'en fait. Non, parce qu'en fait, il faut expliquer pourquoi. Parce que les hôtels, il faut expliquer quand même qu'à chaque étape, on était encadré par la garde nationale, qui était là avec des FAMAS. Donc on s'est quand même posé des questions plusieurs fois. Moi, j'ai demandé à des Tunisiens. Ils m'ont dit, on veut assurer la sécurité du rallye au maximum. Donc c'était mieux d'aller dans des hôtels. D'abord, les campings en Tunisie, il n'y en a quasiment pas. Et en plus, les hôtels, c'est pas cher à cette saison. Et en plus, les Tunisiens veulent voir revenir les touristes, évidemment, donc c'est favorable au niveau hôtelier, quoi. Donc il vaut mieux aller à l'hôtel pour des raisons de sécurité notamment.
Alors, c'est le magazine de la moto, mais non, alors J, on a regardé, c'est pas le Superbike.
Non, c'est une course championnat du monde, de moto, MotoGP à Seine.
Mais oui, c'est samedi. Donc, pour ceux qui veulent aller, pourquoi c'est le samedi les courses en Hollande, parce que c'est très religieux comme pays.
Voilà.
Et donc, les instances religieuses ne voulaient pas qu'il se passe de choses le dimanche, parce que le dimanche, c'est la messe.
Voilà. Alors, la prochaine course.
Vous croyez pas, là, mais c'est vrai, c'est comme ça.
La prochaine course Superbike, c'est à Misano. Donc c'est bien le 22 juin, mais c'est à Misano en Italie, donc République Saint-Marin.
Et comme on parle Grand Prix, on peut dire qu'aujourd'hui c'est Grand Prix d'Espagne, mais il s'est passé des choses.
Alors effectivement, on est sur l'actualité à chaud là. C'est vrai que
il y a un peu de suspense. On va dire qu'on est un peu content. Il y a un peu de suspense. Bah, on va pas non plus dire de mal. On voudrait pas qu'il arrive des choses à Marquez,
En même temps, il y a une chute dans les 5 dernières minutes de la séance d'essai. Donc Marquez n'a pas pu concrétiser sa pole. Il aurait, à mon avis, eu la pole. C'est dommage parce qu'il était sur une suite consécutive de 6 pôles, 6 victoires, et donc ça rompt un peu la chaîne.
Oui, c'est
des pôles, mais pas des victoires parce que c'est pas joué encore. Ouais, je pense que Marc,
va être exceptionnel. Mais enfin, il y a un petit peu de suspense. C'est toujours ça de gagner.
Bon, si jamais il chute, ce sera un peu un tournant de la.
Celui qui va partir, ce sera ce fameux Pedrosa. C'est la même marque, c'est mon gars.
Pedrosa, l'année dernière, avait déjà gagné le Grand Prix de Catalogne. Donc, c'est son circuit fétiche. Il habite pas loin. On a une ligne de départ entièrement espagnol de toute façon entièrement espagnol
alors après le deuxième Lorenzo
Jorge Lorenzo
il y a 15 jours on a vu Marquez justement à la limite de ne pas gagner le Grand Prix de monter sur la deuxième place
on va quand même s'acheminer vers une belle bataille entre ces trois espagnols avec quand même dans leur dos Valentino Rossi quand même et puis Bradel on sait que voilà ça va être chaud de chez chaud au niveau de la grille donc Alex Marquez au niveau de la grille on a je suis pas sûr on a donc les trois espagnols Bradel Rossi et on va assister vraiment à une belle baston je pense il n'y a pas de souci.
Donc en GP3, c'est le frère c'est le frère de Marquez qui est sur la première ligne.
Ouais. Bon, ça c'était la
petite parenthèse. En Moto 2, c'est Esteve Rabat aussi, donc aussi un espagnol. Il y a un petit intrus qui est Mika Kallio, qui est un finlandais. Mais sinon, on a aussi un autre espagnol, Maverick Viñales. C'est des hommes qui vont se battre à domicile et donc ils vont essayer de faire. Mais bon, essayer vraiment de faire le meilleur. Mais bon, en même temps, parfois ça leur met la pression et des fois ils font des erreurs. C'est peut-être ce qui est arrivé à Marquez aux essais. Et donc on va voir, parce que quand il chute aux essais, Marquez, généralement, il est un peu fragilisé pour la course. Donc maintenant il est tellement fort, c'est vraiment quelqu'un, c'est un prodige.
Il domine.
Eric, tu regardes un peu les GP. Et puis Johan aussi, je pense. Et donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel en termes de pilotage. Maintenant, on est content quand même que Rossi, il est quand même deuxième au championnat. Et là, ça se joue entre Rossi et Pedrosa à un point seulement. Donc à mon avis, ces deux-là, ils vont avoir à cœur de se bagarrer pour avoir la deuxième place du championnat du monde provisoire.
Bon, ça se passe à 14h cet après-midi. Voilà. Très bien, on revient un petit peu sur le championnat d'endurance.
Alors en attendant, on a eu un peu d'infos en endurance. Alors il se trouve qu'il devait y avoir une cinquième course au Qatar en novembre, puisqu'on est dans les calendriers. Cette course est annulée. Et la FIM cherche un circuit européen pour remplacer cette cinquième course qui est annulée. Elle est annulée notamment parce qu'on avait une incertitude sur le calendrier Superbike et on s'est aperçu qu'il y avait la dernière course du 2 novembre se fait à Losail au Qatar. Donc ceci explique peut-être cela. Ils ne voulaient peut-être pas avoir deux courses coup sur coup dans deux championnats du monde différents parce qu'à chaque fois les circuits sont obligés de payer une redevance à l'organisateur. Et donc ça commençait peut-être à faire un peu trop. Donc en endurance aussi, on a aussi une nouvelle de notre ami Randy Depunier, qui était pilote d'essai Suzuki, qui n'a pas de guidon pour l'an prochain. Son guidon n'est pas assuré. Parce que vous savez que Suzuki revient en GP l'an prochain en 2015. Ceci dit, il a signé un contrat pour être essayeur. Il n'a pas de contrat pour être Il n'est pas du tout assuré du guidon. Par contre, il va participer aux 8 heures de Suzuka Donc c'est en juillet là, au Japon, donc il fait partie du championnat du monde d'endurance, et il compte bien gagner la course. Et je pense que du côté des Japonais, on a dû lui mettre la pression en disant bah écoute, gagne d'abord Suzuka, puis après on verra. Alors ça va être chaud pour lui, parce que là-bas les Japonais sont chauds bouillants.
Il compte bien gagner la course.
Et croyez-moi, là-bas Suzuka, c'est à couteau tiré. Ouais. On a les yakuza de la moto là-bas, je veux dire, c'est un truc de fou. Les mecs ils roulent deux secondes plus vite que tout le monde, mais bon, même s'ils se mettent par terre, c'est pas gênant. Hein. Et bon, on a surtout l'excellente équipe TCC Honda qui est toujours au top niveau, et surtout les motos d'usine Yoshimura. Et là, c'est vraiment la Rolls des motos, c'est un truc, c'est atomise tout le monde, c'est impressionnant. Donc les Suzuki bénéficient de ces savoir-faire Yoshimura. Et bon, j'espère pour Andy Depinay qu'il va gagner, sinon pour le guidon là, 2015, ça va être un peu compliqué.
C'est pas fait non plus. Hein.
Voilà, alors maintenant, c'est pas du tout un pilote d'endurance.
Ah. Et oui, les pilotes. Enfin, c'est les 8 heures. Hein.
Voilà, et les pilotes
c'est
de.
Pas 24 heures. Donc,
ouais, mais quand même, les pilotes de vitesse, il y a quand même une partie de course de nuit, etc. Et les pilotes de vitesse ont tendance à considérer que l'endurance, c'est une sous-catégorie. Moi, je pense qu'il va découvrir un peu à ses dépens que c'est un truc d'homme. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, on verra ce que ça va donner. Voilà.
On a block of stone, getting all fired up about getting gone. Oh, they're just something about wheels. Took a little out on the road, got pissed, started laying down that interstate. Right for them beauties on a big V8. Oh, they're just something about wheels. Something about wheels, something about a highway. Something about a big old stretch of nothing round, just putting that hammer down. Something about getting off, getting lost. Shotgun honey in a pink tank top. Still about something on the back. GTO, born to be wild on the radio. Chromed up, stripped down, giddy up, go. Lord, they're just something about wheels. Strap me into that main machine. Jack me up on gasoline. Make you feel around 17. Lord, they're just something about wheels. Something about wheels. Something about a highway. Something about a big old stretch of nothing round. Just putting that hammer down. Something about getting off, getting lost. Shotgun honey in a pink tank. About something on the back top, Lord, that's how freedom feels. Something about wheels. Yeah.
Bon, un petit peu d'infos, Superbike, ça vous dérange pas, Eric, Yohan?
Non, bien sûr.
Il y a Gilles qui est là, on est obligé de, de subir.
Hélas. Donc, bah oui, parce que la semaine prochaine, on arrive à la, vraiment au milieu du championnat. Hein, donc,
ouais. Il s'en passe des choses.
Et pour une fois, ça fait plusieurs fois.
Il y a un pilote français.
Là, on a un pilote français qui peut-être pourrait rivaliser et puis être champion du monde. Ouais. Et ça, dans deux catégories. C'est-à-dire qu'en Superbike, malgré que Tom Sykes soit à 201 points et Guintoli à 188, c'est quand même très serré. On a vu que Guintoli était capable d'être très souvent sur le podium, très souvent deuxième, troisième. Malheureusement, cette année, il n'a pas gagné beaucoup de courses, et ce qui fait un peu ce différentiel de points. Ceci dit, l'Aprilia, elle est très bien, puisque son coéquipier, son propre coéquipier, Marco Melandri, arrive, lui, par contre, à gagner quelques courses, et même assez largement. Donc, je pense que Sylvain doit prendre confiance en lui. Et puis,
Melandri qui a gagné les deux manches.
Melandri a gagné les deux dernières manches à Sepang. Ouais. Donc, ça prouve que, quand même, et Guintoli était deux fois deuxième, ce qui prouve quand même que cette moto marche très très bien.
Ouais, parce que c'était chaud pour Melandri, parce qu'il était temps qu'il fasse du.
Ah bah, je pense que voilà, il faut un petit point, peu, faut un petit peu leur mettre la pression de temps en temps. Mais bon, Melandri.
Le staff, il commençait un petit peu à se demander, à se poser des questions.
Melandri était cinquième au championnat à 147 points, il est très loin derrière. Et entre temps, on a aussi un deuxième français qui brille aussi. Alors là, Shai Kawasaki, qui est le coéquipier du champion du monde en titre, qui est Tom Sykes, je vous rappelle. Et Loris Baz, qui a 21 ans, qui est un pilote prodige également, qui a fait de l'endurance aussi, et qui est vraiment souvent aux avant-postes. Il n'y a que 9 points qui les séparent avec Jonathan Rea, qui est un Britannique qui roule sur Honda. Donc, un championnat très très disputé cette année, avec 4 marques aux 4 premières places, en 3 marques aux 4 premières places, on se dispute le truc. Sauf que, derrière, il y a les Ducati aussi, qui essayent de revenir, avec Chase Davis, avec Giuliano, on voit qu'ils manquent un peu de réussite. Souvent, il y a des chutes, etc. Mais on a des Ducati aussi assez performantes. Et on observe aussi ce qui se passe en catégorie Evo. Où là, en catégorie Evo, on a Jérémy Guarnoni avec sa Kawasaki. Je vous rappelle que la catégorie Evo, c'est un peu comme le GP. C'est une catégorie où on n'a pas des moteurs super développés. Donc, l'année prochaine, quand ce sera la catégorie Evo, on s'aperçoit qu'on aura surtout BM avec Camier et aussi Sylvain Barrier, qui revient après de blessure, donc pour le prochain Grand Prix. On va observer ce que fait cette catégorie, puisque l'an prochain, ce sera l'Evo qui sera généralisé à tout le monde. Mais en tout cas, en super bike, on a donc Sylvain Guintoli et peut-être Loris Baz qui peuvent briller. Et en super sport, c'est un peu pareil, puisque en super sport, on a un pilote qu'on attendait peu. On a Jules Cluzel qui roule sur MV Agusta, qui a vraiment surpris son monde parce que personne ne l'attendait à cet endroit-là, et qui arrive vraiment à être aux avant-postes tout le temps. Donc il pourrait très très bien remporter la catégorie. Donc on continue à suivre tous ces pilotes pendant l'été. Hein. Je vous rappelle qu'il y aura quand même plusieurs courses pendant l'été. Et donc on se retrouvera aussi en septembre pour reparler de ce championnat du monde Superbike qui est cette année extrêmement relevé, très animé, et surtout avec de bonnes chances françaises pour une fois. C'est cocorico, quoi. Ouais, ça aurait joué.
Et le prochain, vous suivez aussi le Superbike?
Ouais.
Non.
Il y a un petit truc que je veux dire justement, c'est qu'on entend parler de tous ces pilotes comme Guintoli, Loris Baz, tout ça, qui ont participé au championnat du monde, que ce soit MotoGP, Moto 2 ou Moto 3, et qui n'ont pas forcément eu les résultats escomptés. Et quand ils arrivent dans des catégories comme ça, ils sont aux avant-postes. Je pense que ça montre vraiment la grosse différence de niveau quand même qui existe entre le championnat du monde MotoGP, tout ça.
On en a oublié un autre, un Français, c'est Florian Marino, qui est sur Kawasaki également. Donc actuellement, c'est Vandenmark, un Néerlandais qui est en tête du supersport. Et juste derrière, on a Jules Cluzel et Florian Marino, c'est-à-dire deux Français sur le podium provisoire du classement du championnat du monde super sport.
Et le prochain Grand Prix, c'est le 22 juin.
Voilà.
Et c'est en Italie,
Misano. Voilà. Voilà.
Belle balade en perspective.
Ah bah là, en plus, Misano, c'est magnifique.
En Italie, il va faire beau, tout ça.
C'est Rimini, c'est la côte adriatique.
Oh là là.
Et alors, il y aura aussi une course aussi incroyable à Portimao, donc le 6 juillet. Une autre le 13 juillet à Laguna Seca aux États-Unis. On regardera ça de loin, hein. Et ensuite ce sera à Rérez en septembre.
Et Rimini, c'est pas loin de chez la pizzeria de Valentino Rossi.
Exactement. Et en France, c'est Magny-Cours le 5 octobre. Donc vous pouvez déjà réserver vos places.
On va réserver.
Parce que là, ça va être une belle fête. Et je pense que si on a un Français qui est en tête, là...
Ah oui.
Info Club, Christine.
Oui, le week-end prochain, donc la journée Rosso Corsa à Croix, donc 11e journée de roulage sur le circuit de Croix. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de Benoît Chrétien chez Motosport.
Bruno Chrétien.
Donc chez Motosport 62 Ducati.
Très bien, on va revenir, on va terminer cette émission avec Eric et Johan Roger hein, qui ont participé à ce fameux Tunisian Moto Tour, Rallye Moto Tour.
Leur première
première édition pour vous, premier rallye, donc les images fortes qui vous restent un petit peu dans la tête. Si on doit faire une conclusion.
Moi ce que je raconte souvent c'est l'arrivée dans les petits villages perdus. Dans la pampa tunisienne où il y avait des écoles, bon ça n'a d'école que le nom parce que c'est des bâtiments où il y a des des pièces vides, ils n'ont même pas de table, de chaise. Et tous les petits gamins sont assis sur le muret et nous attendent, ils nous font des grands signes, ils nous applaudissent, ils sont tous là et on passe presque pour des héros. Quoi.
Bah, on vient de voir des photos des deux seules féminines qui ont participé à ce rallye.
Il y en avait qu'une en fait.
Ça nous laisse un petit peu.
Il fallait venir.
Songeur. Hein.
Karine Sliz et Enrica Casana.
Ouais, qui sait, alors la seconde s'est cassée la jambe le premier jour. Donc
le deuxième jour, elle a dû abandonner. Ouais. Et la première, donc, Karine, finit quand même 15e.
Ouais, 15e, bon, d'accord. Mais il n'y avait pas de catégorie
sur 75 inscrits. Ouais. Hein.
Bon, c'est quelqu'un qui est habitué à faire du rallye routier. Hein, donc, voilà, elle roule pas mal, elle roule très bien. Et après, bon, ça se joue aussi sur les spéciales circuits. Et elle fait pas mal de circuits, Karine, donc ça aide. Hein, donc,
ouais. Bon, parlez-nous un petit peu de. Il y avait des concurrents atypiques quand même, parce qu'on a vu des photos. Alors, je voulais. Nous dire un peu.
Moi, l'image que je garde des concurrents atypiques, c'est surtout, je sais plus comment il s'appelle ce monsieur qui a 72 ans.
Il y avait un mec en Bonneville, là, en triomphe.
Ouais,
un mec de 60, un 650, un 750.
Bonneville, ouais, c'est ça. Et en plus, il y a
un modèle 72. C'est un 650, alors.
Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait aussi à peu près.
Il a fini.
Il
y avait plus de.
Non,
il y avait. À son rythme, attention. Il y avait plus de 30% de nouveaux. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait le rallye routier attire de plus en plus de monde. Il y avait énormément de gens qui n'avaient jamais fait de rallye, donc ils sont arrivés avec des motos complètement atypiques, notamment le parrain de l'épreuve, Franck Tiozzo, donc un des frères Tiozzo, donc vous vous rappelez la lignée des boxeurs, et donc lui qui est venu avec une Victory. Il s'est satellisé au bout du deuxième jour. C'est satellisé. C'était vraiment pas la moto adaptée.
La
mais bon.
Victory pour le Tunisien rallye, moto tour.
Fallait oser.
Donc c'était pas sa moto, on lui avait prêté. Donc,
tiens,
bien
sûr.
Bon, il roule bien. C'est un gars qui roule bien. Il roule d'habitude en Harley. Oui. Là, il est venu avec une Victory. Bon, mais c'était pas du tout la moto adaptée parce qu'on a des passages vraiment scabreux.
Des bosses, des passages sans bitume.
Et puis des images fortes, on va regarder. Alors, Joanne.
Ouais, la fameuse décharge.
Ah là, c'est terrible.
C'était impressionnant.
Une décharge à ciel ouvert en montagne avec des enfants qui fouillent. Beaucoup d'enfants nous disaient allez accélérer, faites-nous des wheelings, parce qu'en fait il faut parler aussi du vainqueur de l'épreuve qui est Sébastien Lagu, qui est un Ardéchois, je pense, il va me contredire, et qui est de 28 ans et qui a été un crossman pendant 10 ans et qui vient de venir il faisait seulement son troisième rallye avec un 400, on appelle ça un quadi, un 450 Yamaha YZF, franchement, donc c'était aussi
la guerre, ça.
C'était aussi la machine de Julien Tonuti, qui était quand même, entre parenthèses, qui est le champion de France des rallyes, qui était venu sur l'épreuve pour gagner. Et malheureusement, pour 20 secondes, Lagu l'a tordu, comme on dit. Et donc, il n'a pas pu remporter l'épreuve comme c'était plus ou moins inscrit. Alors, on a une petite pensée. Moi, je voudrais placer une pensée pour Michel Bonneau. Michel Bonneau, qui est un pilote de rallye, qui avait fait un défi en 2013, il était champion de France des rallyes en 125 avec KTM, qui est pilote officiel KTM, qui était venu sur l'épreuve avec une machine d'enduro, qui fait troisième en sport derrière ces deux énergumènes que sont Lagu et Tonuti, qui sont quand même top niveau, des pilotes professionnels et tout. Et donc Michel Bonneau, malheureusement, a eu un accident au retour de Tunisie, c'est-à-dire
en France,
quelqu'un lui a rentré dedans à 100 km/h, lui a coupé sa moto en deux, il a les deux bras et les jambes cassées. Michel, si tu nous entends, on pense à toi. Je pense que voilà, tous les gars qui sont sur le rallye, on est tous solidaires. Je pense que
c'est ce
qu'on va retenir. Et puis super ambiance sur le paddock, je pense.
Ah oui, tout à fait.
Alors Joanne, finalement t'as plus de voiture là.
Eh non, j'ai plus de voiture.
T'as dû la vendre.
Tout à fait. Je voudrais
un petit
mot pour ma fiancée, parce que
tu prends sa voiture.
Non, parce que je suis rentré un soir et je lui ai dit écoute, je vais vendre la voiture pour partir faire un rallye avec mon père en Tunisie.
Alors là,
et elle m'a répondu
elle
d'accord.
Ouais. Bon, ça va.
Voilà, copine. Hein, bon,
donc elle m'a dit fais ce que tu veux.
Ça va. Alors, très bien.
Voilà.
Bon, et finalement votre classement alors, parce qu'on en a pas parlé, vous avez fini combien?
Papa 28.
Et
moi, c'est pas mal. Hein.
Ouais. Et moi 44e avec un 125.
Oh, t'avais un 125. Voilà. Hein, donc oui, puis alors problème de consommation, tout ça, de réservoir.
Ouais, et puis 4 jours à fond.
Ça marche bien, ça avait une petite 125 quand même.
Ouais, ça marche bien.
Et alors
c'est peut-être un bon truc, t'as une belle machine pour faire
ce genre
de choses.
Pour les liaisons, c'est nickel, pour les spéciales, c'est un peu léger.
Pour
les spéciales, il faut aussi chronométrer, donc il faut une machine.
Et par contre, 600 itinéraires, c'est un peu lourd ça peut-être.
Ah ben compte tenu du parcours qu'on a eu et des revêtements et des trous, des bosses et machin, je pense que c'était une moto non pas pour faire un scratch mais certainement pour bien figurer.
Joanne a un petit projet, si tu peux en dire deux mots.
On vient de créer un motoclub dans mon petit village Donc une grosse pensée à tous ceux qui vont faire ça avec moi, et on a pour projet de participer à plusieurs manches l'année prochaine du championnat de France des rallyes routiers.
D'accord, et il s'appelle comment ce motoclub?
Racing Motoclub de Bercé.
Ah là, Bercé, et voilà, Bercé, à nouveau c'est motoclub. Pas loin d'ici, Bercé, c'est 2 minutes, 5 minutes.
Et voilà, et donc ceux qui veulent goûter au rallye routier, vous vous rapprochez de Douane, un petit numéro de téléphone.
06 18 72 54 47, il n'y a aucun souci, tout le monde peut nous rejoindre sans problème.
Très bien, messieurs, merci d'être venus aujourd'hui, raconter vos exploits, votre aventure dans ce tunisien de moto tour. Et l'année prochaine, vous allez vous reprenez le truc.
Oh, il y a des chances. Hein, il y a des chances. Ouais.
Ouais. On est déjà en train de scruter les sites internet pour trouver une moto plus adaptée.
L'ambassadeur de Jordanie affrète un avion pour les concurrents. Donc on est attendu en Jordanie et je pense que ça c'est bien parti pour pouvoir avoir 3-4 continents qui permettraient de faire un championnat du monde.
Voilà, Laurent me fait signe qu'il faut terminer, Gilles, et on va plier cette émission, comme tu fais. Merci Eric, merci Johan, merci Christine, merci Gilles, et merci aussi
bonne journée.
Laurent.
Bon dimanche à tous.
Bon dimanche à tous.
Et au revoir. À toutes.